Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouveau numéro d'En Spectateur, votre émission de critique de spectacle sur Transistor. Au sommaire de cette édition, deux reprises, qui sont aussi deux performances théâtrales de femmes. On commencera avec Le nom sur le bout de la langue, de et avec Marie Vial. C'était joué la semaine dernière au Subsistance. Et puis en seconde partie d'émission, je vous parlerai de Tableau d'une exécution sur une mise en scène créée en 2016 par Claudia Stavisky, et reprise au mois de novembre au Célestin. Alors, après ce programme, il me reste encore à vous présenter mon comparse du jour, dont c'est la première intervention dans En Spectateur. Bonjour Lorenzo.
Bonjour Marie.
Alors, on commence donc avec Le nom sur le bout de la langue qu'on est allé voir tous les deux. Alors, des textes de Pascal Quignard et une interprétation et mise en scène de Marie Vial. C'est une courte pièce, une heure, qui a été créée au Subsistance il y a un peu plus de 10 ans. C'était en 2006 et c'est alors la première mise en scène de Marie Vial. Et à l'invitation des Subsistances, c'est un travail qu'elle a repris cette année, avec donc un travail de résidence et 3 représentations.
Une collaboration justement entre Marie Vial et Pascal Quignard, plus qu'une mise en scène solitaire, c'est davantage la co-réécriture en fait, de ces contes de Pascal Quignard qu'ils ont tous les deux travaillé afin de produire une pièce commune.
Donc, alors, je te laisse me corriger si je me trompe, mais le texte coud ensemble du coup 3 contes. On a d'abord Fête des Champs du Marais, donc ça se passe au XVIe siècle, donc le siècle des guerres de religion, et Bernon, le jeune chanteur à la voix cristalline, est assassiné par son rival jaloux, Marcelin, dit le beau Palaiseau. Mais le crâne de l'enfant Bernon, et ça c'est problématique, continue de chanter. Ensuite c'est Paradis, un très petit conte, manifestement assez court, et dont tout ce que j'ai retenu malheureusement c'est que ça parle d'amants qui se regardent dans les yeux et de Dieu qui se voit fermer les portes du paradis. C'est passé un peu rapidement, ça. Et enfin, le conte le plus long qui clôt le spectacle et qui lui donne aussi son nom, Le nom sur le bout de la langue. Donc cette fois, ça se passe en Normandie, c'est chez moi, vers le 9e siècle. Et c'est une jeune femme qui, pour épouser le tailleur qu'elle aime, fait involontairement un pacte avec le diable sous les traits d'un seigneur nommé Aigle de Bic de L. Et un an après la visite de ce seigneur, elle devra se souvenir du nom de ce triste sire si elle ne veut pas le suivre sous terre. Et évidemment, le nom lui échappe. Alors maintenant que j'ai résumé ça un peu du mieux que je pouvais, je passais un peu la parole. Lorenzo, qu'est-ce que tu as pensé de ce spectacle ?
Moi, j'ai beaucoup aimé ce spectacle, notamment enfin la partie sur le nom sur le bout de la langue, enfin, dont je connaissais déjà la nouvelle écrite, et enfin ce qui est assez plaisant à voir justement dans cette mise en scène, c'est l'aspect que peut prendre ce texte dans une dimension cette fois-ci théâtrale. Enfin, c'est notamment un texte sur l'oubli de la parole, l'oubli du texte, et justement voir Marie Vial parfois achoppée sur des mots ou parfois avoir sa voix qui une espèce de fil tendu à l'extrême, parfois se rompre, laisse voir justement cet aspect du texte qui apparaît nu, qui, comment dire, est exhibé dans sa fragilité, est exhibé toujours dans la voix qui a ce nom sur le bout de la langue, qui a ce nom qui est prêt à se perdre et à tomber. Et justement, enfin, moi c'est surtout cette partie-là qui m'a beaucoup plu. J'ai, à vrai dire, un peu oublié la partie paradis, justement,
ouais,
qui pour moi...
C'est pareil pour moi.
Enfin, ouais. J'ai pensé que c'était un prémisse, en fait, au nom sur le bout de la langue, une partie que j'aurais oubliée en introduction à la nouvelle. Et c'est vrai que, pour moi, elle est un peu passée à la trappe. En revanche, le conte qui ouvrait le spectacle, je l'ai trouvé extrêmement beau, notamment parce qu'il reprend aussi toute cette relation au chant du cygne, un peu cette chanson qui continue à être chanté constamment, une fois même que la mort est là. Toute cette relation que Quignard file dans son œuvre entre la mort et le langage, notamment, et entre l'effroi de perdre son propre langage. Je pense que dans l'ensemble, c'est un spectacle qui est extrêmement réussi, d'autant plus qu'il est porté par la performance de Marie Vial, qui arrive quand même à, comment dire, montrer la prouesse de tenir un spectacle de bout en bout.
Ouais, ça, je suis vraiment d'accord. C'est vraiment une performance de la voir comme ça pendant une heure. Elle est assez incroyable comme actrice. C'est vrai que ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait qu'elle bute sur les mots, je me suis dit, tiens, c'est peut-être parce que je suis allée voir la 3e représentation et qu'elle était peut-être un peu fatiguée, mais non, j'aime bien ton interprétation de... Elle aussi, le texte sur le bout de la langue. En tout cas, ouais, il y a un côté très incarné de voir comme ça cette actrice qui peut avoir aussi des fragilités, qui porte le spectacle toute seule. Enfin, moi, j'ai cette image en tête de quand elle arrive au début sur scène en portant son violoncelle.
Elle
est nue derrière son violoncelle et la lumière est faite de telle manière, je sais pas trop comment ils ont fait ça, mais elle apparaît un peu spectrale comme ça, on voit
oui,
rien
d'autre. Oui, en espèce de halo très léger autour d'elle.
Ouais, et il y a un travail sur les lumières qui est vraiment super dans ce spectacle, je trouve, qui rend hyper bien l'ambiance un peu conte, onirique. Il y a très peu d'objets sur scène parce qu'au fond, bah, elle a simplement des éléments de costume qui vont lui tomber dessus au fur et à mesure de la
pièce.
C'est
très drôle d'ailleurs, ouais. C'est assez fin comme humour.
Ouais, c'est ça, elle a une espèce de grand manteau d'officier et puis après une chemise
légère, blanche.
Voilà, à la fois transparente, mais en même temps on voit rien, mais en même temps, enfin, on sent que c'est très pensé.
Mais justement, sur le travail de la lumière, c'est curieux parce que la lumière va devenir, comment dire, jusqu'à un vêtement en fait. Et au début, du coup, ça contribue à créer cette espèce d'halo qui l'entoure. Et vers la fin, quand elle raconte justement le tailleur qui court pour aller dire à... Comment elle s'appelle déjà? Pour aller dire à...
Ouais, son nom m'échappe aussi, et j'ai pas réussi à
retrouver. Je crois que je l'ai par là. Ah non, c'est Jeune le tailleur qui va justement rejoindre Colbrune pour lui dire le nom à Idebic de Hell pour la sauver en fait des enfers. Toute cette partie-là où elle décrit la course de Jeune, la lumière va devenir de plus en plus concentrée sur son corps, va jusqu'à former encore une fois ce halo autour d'elle. Et finalement, au fur et à mesure, ça va être uniquement son corps que l'on voit, son corps qui est justement pris dans cette lumière qui met juste en valeur finalement la figure qu'elle est, c'est-à-dire la figure d'une conteuse et d'une conteuse qui porte uniquement un texte en fait. Et c'est ça qui est extrêmement beau avec cet éclairage qui toujours la suit, qui toujours est à fleur de peau en fait et qui crée cette figure limite quasiment absente, mais on peut pas dire absente puisque c'est son corps qui porte le texte, mais par moment en fait elle laisse aller son corps pour juste montrer le texte, et c'est ce rapprochement en fait que je trouve extrêmement beau entre la lumière et le corps.
Ouais, et parce que c'est vrai que quelque chose qu'on n'a pas précisé, c'est qu'elle fait pas seulement raconter les histoires, elle joue aussi tous les personnages et elle joue aussi la musique en plus du texte. Mais bon, la musique est aussi une part du texte, elle joue du violoncelle comme ça c'est très Pascal Quignard. Moi c'est vrai que je suis pas fan de Pascal Quignard, pas du tout, j'étais un peu traumatisée par la lecture de Tous les matins du monde quand j'étais en terminale. Et bon, c'est vrai que le premier texte, là, avec le... Enfin, on voit revenir les thèmes, genre le petit enfant chanteur, la musique, etc. Je me suis dit, bon, ok, on est bien chez Quignard, ça va sans doute parler de sexualité, tout ça, tout ça. Mais, écoute, elle a presque réussi à me faire un peu aimer ces textes dont je suis quand même pas très familière et sur lesquels j'ai quand même pas mal d'a priori. Et ça, c'était assez réussi, même si... Voilà, je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit tout à l'heure. Le deuxième conte, le paradis, en fait, on comprend pas vraiment que ça en est un. On a plus l'impression que c'est une transition ou un prologue entre les deux gros morceaux qui sont quand même les fêtes du marais et le nom sur le bout de la langue. Nom sur le bout de la langue qui est peut-être un peu long. Bon, ça va, hein, c'est pas non plus archi long, mais c'est vrai qu'il y a cette structure très répétitive du conte qui induit quand même voilà, un sentiment au bout d'un moment, genre... Oui, bon, bah tu vas t'en souvenir du nom de Idebic de Hell. Mais bon, c'est vraiment un petit défaut mineur.
Moi, justement, dans les modulations de la voix qu'elle avait, dans les rythmes successifs qu'elle empruntait, en fait, justement, j'ai pas eu cette dimension de longueur, en fait. Quand bien même je connaissais le texte à la base, et quand bien même je savais qu'il y aurait ces répétitions, etc., je trouve qu'elle réussit assez bien, justement, l'épreuve de rendre... le conte non pas répétitif, mais justement de nous tenir en haleine, en fait. Et c'est aussi en ça, pour moi, que c'est une performance, parce qu'elle arrive à créer un rythme qui lui est propre, un rythme de, comment dire, de sa propre manière de conter l'histoire, mais qui, justement, vient jamais créer de lassitude, en fait, pour le spectateur. Enfin, à aucun moment, je me suis dit, mince, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va enfin arriver au non retrouvé? Et en même temps, répétition qui est absolument nécessaire, sinon on voit pas assez apparaître la dimension de, comment dire, de ce nom retrouvé, de la jouissance aussi du nom retrouvé qui est aussi un thème, puisque enfin, chez Quignard, la poésie est toujours cette jouissance du nom retrouvé. C'est ce qui fait poème, c'est précisément cette jouissance-là.
Alors, une dernière question pour refermer cette discussion. Ce spectacle, c'est une reprise, peut-être qu'il sera repris ailleurs dans un futur proche. Si c'est le cas, est-ce que tu le recommanderais à nos auditeurs et auditrices, Lorenzo?
Je recommande clairement d'aller voir ce spectacle, ouais.
Et bah, c'est pareil pour moi. Merci à toi.
Merci.
Chers auditeurs et auditrices, on poursuit ce numéro d'En Spectateur avec Tableau d'une exécution, texte de Howard Barker et mise en scène de Claudia Stavisky, qui décidément passe beaucoup dans cette émission cette année. Alors, c'est une mise en scène qui date de 2016 et c'est une reprise de ce spectacle. Tableau d'une exécution, c'est Venise à la Renaissance et c'est le portrait d'une femme, Galaxia, roublarde, indépendante, libre, peintre de génie et chargée par le Doge et la municipalité de Venise de peindre une fresque monumentale de 100 mètres de long avec pour sujet la bataille navale de Lépante. Mais Galaxia ne veut pas glorifier cette victoire et elle entreprend au contraire de peindre le massacre dans toute sa crudité et les corps démembrés par la guerre.
D'où le double titre qu'on peut apporter à Tableau d'une exécution, c'est ça ?
Exactement.
Justement, t'as vu des corps démembrés, et qu'est-ce que tu penses justement de cette exécution dans le tableau qui semble quand même assez sinistre dans l'ensemble ?
Eh ben, j'ai tout simplement adoré cette pièce. Alors déjà parce qu'on ne voit pas de cadavres, c'est vrai que je ne supporte pas le sang. Non, franchement, c'était absolument génial, je suis absolument conquise. D'abord par le texte, qui est vraiment extrêmement beau. Enfin, rien que pour la qualité du texte, il faut aller le voir, quoi. Vous pouvez à la limite aller le voir les yeux fermés et juste écouter ce qui se dit. Pour la grande force du personnage principal féminin, Galaxia, c'est vraiment pas courant, je trouve, surtout à la télé, au cinéma, etc., mais même au théâtre, de voir une pièce autant centrée et portée par son personnage de femme, qui est quand même une femme sexagénaire, très affirmée, sexuellement active, moqueuse, cynique, très passionnée, enfin, un personnage qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir, elle est vraiment géniale, quoi. Les 5 premières minutes de la pièce, j'ai eu un peu peur, parce que ça ronronnait un petit peu, on comprenait pas toujours ce que disaient les acteurs et les actrices, mais en fait, je pense que c'est juste parce qu'ils étaient dans une phase de préchauffage, parce qu'au bout de 5 minutes, c'est bon, c'était parti, quoi, et on était emportés avec eux. Donc, vraiment, un personnage central hyper intéressant, et c'est aussi le cas de tous les personnages qui gravitent autour d'elle. Il y a sa fille avec qui elle collabore, mais avec qui elle est aussi en débat, qui est pas du tout un personnage lisse et plat de second plan, quoi. Elle tient cette idée d'aller jusqu'au bout, de oui, je vais peindre ce massacre, et qu'importe ce qu'en dit le Doge, qu'importe ce qu'en dit Venise. Et sa fille qui est beaucoup plus dans le pragmatisme, et non, on ne fait pas ça, c'est dangereux, etc. Donc un débat intéressant. Il y a le personnage de son amant qui est aussi un peintre qui s'appelle Carpeta. Alors lui, il est extraordinaire, c'est un gros acteur bedonnant, on le voit à poil, il pleure, enfin, des trucs pas courants. Et puis le doge, il est extraordinaire, il est super drôle. Le personnage de l'archevêque aussi, ils sont, enfin, hilarants tous les deux. Et le doge, il a ce côté très à la fois drôle, mais en même temps très autoritaire, un peu souple et subtil comme ça, genre la main de fer dans le gant de velours, quoi. Et c'est pas du tout manichéen comme pièce. C'est le dialogue constant entre des personnalités très fortes, très affirmées. Et écoute, pour une fois, voilà, Claudia Stavisky s'est bien mise en scène, parce qu'on se souvient de ce commentaire que tu avais laissé, parce que toi tu avais détesté Rabbit Hole. Là, pour le coup, c'est... Bon, j'ai pas vu Rabbit Hole, mais je trouve que dans cette pièce, Tableau d'une exécution, il y a des très bonnes idées de mise en scène. Je me demandais, par exemple, comment est-ce qu'ils allaient représenter ce tableau, parce que, bon, faire un tableau de 100 mètres de long sur une scène de théâtre, c'est peut-être pas forcément évident. Le choix qui a été fait, c'est que dans un premier temps, le tableau est représenté par un écran, et donc en fait, il projette au fur et à mesure de la pièce, d'abord les esquisses, et puis après les traits de plus en plus précis, donc comme ça sur un écran. Et au milieu de la pièce, l'écran disparaît complètement, on décide d'évacuer la dimension matérielle et réaliste du tableau, et le tableau est remplacé par un énorme pan de tissu rouge, qu'on suspend en hauteur, après qu'on fait tomber par terre, les personnages patouchent dessus, enfin, on a vraiment l'impression qu'ils sont dans une mer de sang, comme ça, ou dans des replis de chair mis à nu, quoi. Enfin, vraiment, je trouve que ça marche très très bien, ça devient une espèce de représentation symbolique de ce tableau, comme ça. J'ai vraiment trouvé que c'était une super idée de mise en scène, qui m'a énormément plu. Et puis, enfin, dernière raison pour laquelle je recommanderais ce spectacle, c'est parce que ça fait pas mal réfléchir quand même sur l'art, le pouvoir et la mise en scène, la mise en spectacle des deux, comment le pouvoir se met en scène, comment l'art se met en scène, et comment on peut pas opposer les deux en disant d'un côté il y a les gens du pouvoir qui sont très 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 méchants et de l'autre il y a les artistes qui sont très très libres. C'est pas si simple que ça, c'est pas manichéen. Il y a pas mal d'amertume dans ce spectacle, mais c'est un des points qui font qu'il est, à mon sens, très 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 intéressant. Donc du coup, je pense que, chers auditeurs et auditrices, vous aurez compris que je recommande cette pièce à absolument tout le monde, et ça tombe super bien, parce que le spectacle part en tournée. Alors, il va y avoir une première étape en Roumanie, donc je doute que vous alliez le voir en Roumanie, mais après, il va passer dans pas mal de théâtres en France, et je vous remettrai tout le détail dans la description de l'émission. Je vous invite absolument à aller voir cette pièce. Chers auditeurs et auditrices, ce numéro d'En Spectateur touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Je salue et remercie Lorenzo, mon critique du jour. À suivre la semaine prochaine, nous vous parlerons de Je suis Fassbinder, pièce jouée au TNP et dont Léa et Sarah vous parlaient dans le dernier journal radiophonique amplifié. En perspective, l'Allemagne des années 70 et un hélicobite, je vous laisse sur ce résumé mystérieux. Vous avez jusqu'au 24 novembre pour vous rendre à Villeurbanne et vous faire un avis en attendant le nôtre.
Et on aura aussi l'occasion de parler de Mélancolie qui se joue au Théâtre de la Croix-Rousse la semaine prochaine et qui notamment reprend des textes de Tchekhov qui a l'air quand même assez curieux comme spectacle.
Ok, bon, donc on est très intrigués pour la semaine prochaine. On vous embrasse et d'ici là, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.